Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les araignées ou les recluses de la critique. J'ai nommé Olivia de Lamberterie du L. Arnaud Vivian, candidat aux prochaines législatives dans le 18e, mais également. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Sous quelle étiquette ?
Libre, indépendant.
Sans étiquette. Mais également de la revue Charles, de Transfuge, de Regard, je crois que c'est tout. Non, et qu'est-ce qu'il y a encore ? Plein de choses. Enfin bon, ce qui est imminent, c'est quand même...
La campagne.
Avec Jean-Louis Zine.
De la campagne également.
d'une autre campagne, qui est le Pays d'Auge, mais surtout du magazine littéraire. Et avec Jean-Claude Raspienjas de La Croix pour parler ce soir des livres d'Anna Gavalda, Fred Vargas, Romain Puertolas, Pascal Quignard et Bernard Pivot dans le courrier de la semaine à propos du roman d'Éric De Luca, La nature exposée chez Gallimard. Éric Lévesque nous écrit « Vos critiques littéraires semblent peu historiens de l'art. La représentation d'un Christ en érection et en croix est chose bien connue tout autant » que le gisant de Bitenfer, Victor Noir, au cimetière du Père-Lachaise. Le plus célèbre Christ est celui de la cathédrale de Saragosse, en Espagne, où il est interdit à Arnaud de stationner pour voir les dévotes aller embrasser ou caresser la partie virile pour faire exaucer leurs vœux. La représentation qu'en a fait Rodin, et elle est explicite. Et si vous souhaitez découvrir des femmes crucifiées, on en trouve même... Jean-Louis, dans une vallée d'Auge, c'est vous dire. Félicitations à votre équipe, dont la mauvaise foi est égale au bonheur de vous écouter. Nicolas Larmagnac de Paris qui nous écrit « J'apprécie tellement votre émission que je la réécoute en balado-diffusion lors de mes séances de jogging. » Tient à apporter cette précision, alors là il faut dire purement tintinophile. Je viens d'entendre Arnaud Vivian et Nelly Caprielian faire une référence à Tintin au sujet du roman Norma de Sophie Oksanen. Si c'est bien dans Tintin au pays de l'or noir que les Dupont avalent les pilules qui font croître leurs cheveux, c'est dans On a marché sur la lune que nous apprenons que ces cheveux grandissent de façon continue. Ça change beaucoup de choses dans nos vies. Cyril Fla remercie le masque de lui avoir suggéré le journal de Mathieu Gallet qui reparaît effectivement en collection bouquin, un délice, il m'a rappelé. Ça, je suis pas sûr que ça soit très gentil. Roger Perfitte dans ses propos secrets et autres facéties. Quelle acidité dans ceux de Mathieu Gallet, entre autres page 121, et Géry qui déclare en grec corvéchiote se dit travail de Pénélope. Et...
Ouais.
C'est un peu démodé maintenant. Et les autres portraits sont du même acabit, Jouando, Gide Blondin, et j'en passe, à lire en cas de déprime ou
c'est
sans.
C'est une réédition, mais augmentée justement des passages qui avaient été censurés.
Et biffé. Bon, puis j'avais aussi une question pour finir de Ward pour Jean-Louis, mais apparemment tu as oublié, c'est impossible, nous dit cet auditeur, de trouver par phonétique le qualificatif que tu as donné au masque et la plume des plantes qui vont vers le haut et celles qui vont vers le bas.
Alors vers le bas, c'est basopète, je pense. Vers le haut, je me souviens plus. C'est un terme de botanique, pardon ?
Acropète. Acropète, voilà. Merci acropète. Monsieur, dans le public. Voilà. On se croirait au jeu
des numéros. Ce sont des plantes qui s'accrochent.
Donc, c'est acropète.
Bah, il faut se rappeler de ça. Ça s'accroche à la muraille, tu vois.
Voilà. Donc, dans le dictionnaire, ça se trouve dans le dictionnaire.
Ah ben, complètement. C'est un terme de botanique. Les botanistes distinguent la nature en deux séries. T'as les plantes basopètes et les plantes acropètes.
Allez, on va commencer avec quelques animaux. Quand sort La Recluse, le nouveau gros roman, Jean-Louis, 480 pages.
Oui.
De l'archéozoologue médiéviste, j'aime toujours ça, Fred Vargas. C'est chez Flammarion, on y trouve le débonnaire, mélancolique et très peu méthodique, commissaire Adamsberg, alors qu'il pêche sur une île islandaise. Le chef de la brigade criminelle du 13e est rappelé à Paris parce qu'une femme a été écrasée, c'est un peu ballot, par le 4x4 de son mari. Suit une étrange enquête au cours de laquelle il est révélé que des hommes sont morts empoisonnés par le venin d'une araignée. La recluse du titre, c'est elle, une araignée à huit pattes qui aime la solitude, qui se montre le moins possible, qui est à la fois peureuse et charognarde, c'est compatible.
C'est le blaireau des araignées. C'est...
Absolument. Les insectes, elles les mangent morts. Et chez l'homme, ben, les morsures et le venin de la recluse provoquent des nécroses. J'ai vu sur Internet, c'est assez laid, hein, quand même. Faut pas y aller, hein. Mais ce qui intrigue quand même Adamsberg, et ça je le comprends, c'est que pour tuer un seul individu, il faudrait le venin de 22 recluses. Ah, si je vous dis qu'ensuite, le roman se passe du côté de Nîmes, Fred Vargas tisse donc son deuxième polar comme une toile d'araignée, vous ne serez pas surpris. Ni d'ailleurs d'y trouver, en plus des araignées, j'ai relevé une murène, pas mal de merles, des poissons, un chat, et puis c'est Blaps, c'est coléoptère qui pue, que je ne connaissais pas. Donc, le bestiaire de Fred Vargas, on le retrouve dans ce qu'en sort la recluse. Promis, à mon avis, un assez gros succès, Olivia.
Oh bah parce que très bon cru. La dernière fois, elle montait un peu dans les tours, l'intrigue
était un
petit peu...
La dernière fois, vous aviez fait un peu vos mijaurés.
Oui, parce qu'elle était un petit peu trop passionnée et emportée par Robespierre. Là, c'est un roman qui est beaucoup plus réaliste.
D'abord, il y a là. La...
Si. Plus quotidien, en tous les cas, je trouve. Très réussi, parce que d'abord, il y a l'atmosphère. Et c'est toujours formidable de retrouver, moi je trouve, Adamsberg et Danglars, parce que c'est comme des vieux amis qu'on n'a pas vus depuis 2 ans. Mais il n'y a pas besoin de se mettre sur 131 pour les retrouver, tu les retrouves comme tu les avais laissés. Là, tu l'as dit, Adamsberg, il va pas très bien hein, dans ce roman. Il faut le dire. Bon, d'abord, on le dérange.
Au début, il va bien parce qu'il est en Islande.
Bah, il est en vacances, il est furieux de rentrer de ses vacances.
Il, va jamais
il a raison.
Très bien non plus.
Oui, mais non. Il a toujours beaucoup de distance avec les événements. Oui. Mais là, il en a encore plus que d'habitude. D'autant qu'il y a un gros problème, c'est que Danglars, que vous adorez, Danglars est devenu idiot. Dans ce livre-là. Il est devenu idiot.
Idiot, c'est un grand mot.
Il sème la zizanie, il reproche à Adamsberg son autorité, alors qu'on ne peut pas dire qu'Adamsberg est un mec qui abuse de son autorité. Donc, au début, dans la brigade, ça ne va pas du tout. Il y a une odeur épouvantable, ça sent la murène. Alors, je ne connais pas très bien les commissariats, je fréquente assez peu et même pas du tout.
C'est pas ce qu'on me dit. Hein.
Mais je doute qu'aucun commissariat n'ait le charme poétique de la brigade. Parce que quand on commence le livre, il y a une odeur épouvantable, parce qu'il y a un gars que j'adore aussi, qui est obsédé par les animaux. Et là, il a acheté chez le poissonnier une murène décomposée, qu'il a mis dans son tiroir, chacun ses trucs, hein, chacun son trésor. Donc ça sent extrêmement mauvais. Et ça
moi,
sent...
j'ai toujours une murène dans mon tiroir, personnellement.
Ce qui permet d'ailleurs à Vargas d'inventer... Elle file l'expression, au lieu de dire « il y a anguille sous roche », elle dit tout le temps « il y a murène sous rocher », ce qui, moi, me réjouit. Et puis, on part dans
la... Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est qu'au début du livre. Là. Oui. Donc, si tu nous racontes tout le livre...
Non, ce qui est...
Comme ça, on n'est pas arrivé.
Parce que ce qui
est
dément, c'est l'intrigue. L'intrigue, il rentre parce qu'il y a un gars qui a écrasé sa femme, ou peut-être lui, peut-être pas lui. Et en 15 pages... Adamsberg résout l'affaire. Et on se dit, là, je suis page 30, qu'est-ce qui va se passer ?
32.
Et exactement. Puis après, il y a une deuxième affaire, et au milieu du livre, elle explose de nouveau tout son
avec
tout
la recluse.
Pitch. Avec la recluse, mais là, il ne faut pas en dire en plus. Je trouve que c'est formidable. Il y a un truc qui est parfois raté chez Vargas, ce sont les meurtriers. Parce que c'est une fille qui est tellement empathique dans la vie, c'est aussi pour ça que je l'aime, que parfois, elle rate ses personnages de méchants. Et là, évidemment, je ne peux rien vous dire, mais... C'est formidable.
C'est un peu long quand même, je trouve.
Moi, j'ai pas trouvé.
Je peux me permettre.
Un peu long. Non, j'ai trouvé que elle tenait son truc. Bon. Parce qu'il y a une langue aussi. Ça sonne toujours bien.
Oui. Jean-Louis.
Mais moi, j'ai pas trouvé ça long, moi. Parce que, en fait, on.
Tu l'as lu ?
Oui, bien sûr. Jusqu'à la dernière page où elle remercie d'ailleurs, je ne sais plus quel professeur du Muséum d'Histoire Naturelle pour l'avoir si bien informé sur l'Oxolès rufescens,
la recluse,
l'araignée, la recluse, etc. Donc, elle s'est documentée. Mais ce qu'il y a de formidable avec Fred Vargas, je trouve... Enfin, vous, je ne sais pas. Mais moi, je ne la lis jamais pour l'histoire à laquelle je comprends rien, en général. Je la lis pas pour l'intrigue.
Ça, c'est pas faux.
C'est pour une atmosphère, comme tu disais, une ambiance, un climat, et puis aussi le quant à soi des personnages par rapport à leur rôle dans l'action, quoi. Cet Adamsberg est absolument impayable et c'est sa vie intérieure au fond. Danglars, c'est pareil. C'est leur vie intérieure qui compte pour nous beaucoup plus que... Justement, c'est ça qui est amusant. C'est que comment peuvent-ils, ces gens-là, se débrouiller d'affaires aussi exactes et aussi minutieuses que des enquêtes de police ? Tu te le demandes. C'est un miracle permanent, quoi, en quelque sorte. Et donc, du coup, on lâche toujours un peu l'intrigue. Et on ne lit pas Fred Vargas pour ces histoires. On le lit pour la façon de...
Mais parfois, elles sont embrouillées. Celle-là, elle est assez claire d'intrigue. Je trouve que tu t'y perds pas. Oui. Bon, écoutez, les garçons, alors dans ce cas-là, c'est vous qui êtes idiot, comme Danglars.
Merci, merci Olivia.
Non, celle-là, elle est très simple.
Jean-Claude ?
Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve au contraire que c'est de très très grande complexité, mais ça n'enlève rien au charme. Moi, je suis comme Jean-Louis. C'est moins pour l'intrigue que pour les à côté. C'est assez capillotracté quand même.
Comment ah non.
Capillotracté.
Tiré par les cheveux.
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Ah.
Par le haut.
Voilà. On voit que monsieur
acropète légèrement quoi, peut-être aussi.
On voit que monsieur a fait du grec.
C'est un roman acropète et capillotracté.
Monsieur a fait du grec. Alors c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est un petit peu tiré par les fils de l'araignée.
Ah, je le note, capillotracté.
Il y a quand même, il faut préciser que rien n'est rationnel. Mais rien.
Ah bah. Ni les personnages.
Moi, je suis pas du tout d'accord.
Au début.
Oui, si tu veux. Alors, les deux premières intrigues. Le 4-4. Et l'histoire de la salle de bain.
L'histoire de l'orphelinat.
Pour se mettre en jambe, on est sur des choses rationnelles. Mais à partir du moment où la recluse sort du bois, pour ainsi dire, là, ça devient quand même très, 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 très compliqué. Moi, il y a des moments où je me suis un peu perdu. C'est-à-dire, on se perd, on s'étouffe, on est pris au piège, on va jusqu'au bout. Hein. On va jusqu'au bout, on veut absolument tout savoir.
Qu'est-ce qu'on demande à un livre?
C'est un peu étouffant par la sinuosité de l'intrigue. Excuse-moi, moi, je dois dire
Ça parle du monde.
Les méandres obscurs des rebondissements.
Emmerdé par les insectes.
Alors, il y a parfois des moments où, quand je dis capillotracté, c'est capillotracté. L'histoire du prénom d'une des héroïnes, à partir de la chèvre de Monsieur Seguin, le mode opératoire pour tuer les malheureuses victimes qui ne sont pas si malheureuses que ça, la métaphore du voyage de Magellan pour expliquer les rebondissements de l'enquête, et là c'est quand même un petit peu... Mais ça marche toujours, tout est invraisemblable.
Mais ça, c'est tiroir-là, c'est digression dans tous ces romans.
Oui, oui, oui. Mais
elle est très lacanienne.
Oui, en plus. Lui. Et alors, par quel mystère, ça je n'arrive pas à savoir, je ne sais pas, vous allez peut-être m'éclairer, par quel mystère on est pris, on va jusqu'au bout, on passe par des moments où on est soi-même un peu comme Madame
Pierre. Je persiste avec des longueurs.
Voilà, et de temps en temps, on est pris dans des proto-pensées soi-même en traversant
ce
livre. Mais c'est ce qui arrive à Adamsberg. Ses intuitions viennent de ses proto-pensées, c'est-à-dire de ces sortes de bulles dans sa tête. Ah mais c'est dans le livre. Hein.
Oui, je sais.
Visiblement, tu l'as pas vu. Non, c'est plein de fois dans le livre. C'est pas juste une page.
Non,
note-le, voilà.
Mais
c'est ça. Voilà, proto-pensée, voilà, c'est ça, avec un S. Voilà.
Arnaud.
Moi, j'adore Fred Vargas, la personne, l'affaire Battisti. J'en suis toujours pas revenu, quoi. Avec le soutien de BHL, j'ai toujours pas compris comment, d'ailleurs. Elle a écrit récemment un texte qu'on peut trouver sur Internet qui s'appelle La Troisième Révolution, qui est un très beau texte, une espèce de
disons
il y a eu une première révolution, la révolution paléolithique, et puis il y a une deuxième révolution, la révolution industrielle, et là il faut nécessairement, sinon on va tous crever, une révolution écologique.
Ah bon, on voit que t'es en campagne.
C'est elle qui est surtout en campagne. Et c'est vrai que du coup, la seule chose qui m'intéresse vraiment dans ces livres, dans celui-là en tout cas, c'est justement le rapport aux animaux. Je trouve qu'il y a quelque chose là qu'elle raconte, effectivement d'une manière assez lacanienne, je suis assez d'accord. Et en même temps, je dois dire que je n'arrive pas du tout à rentrer dans cet univers. Mais pas du tout. J'ai l'impression, c'est un peu le problème des... Vous savez que vous pouvez rencontrer, terrible, avec les passeports biométriques. C'est-à-dire que le texte ne reconnaît pas mes yeux, et mes yeux ne reconnaissent pas le texte. C'est-à-dire, je ne comprends rien. La dernière page, justement, tu en parlais, Jean-Louis, la dernière page, il y a une phrase qui dit « À force de bavarder, on finit par bavarder ». Cette phrase-là, vous voyez.
C'est une proto-pensée.
Je me suis demandé, alors, est-ce que c'est une autocritique malicieuse de Fred Vargas? Ou est-ce que ça ne veut absolument rien dire? Mais je reste interloqué. Il y a un autre moment, elle parle d'un personnage, il parle d'un personnage qui ressemble à Balzac, l'écrivain, physiquement. Et il y en a un qui dit, alors Balzac est toujours vivant. L'autre répond, oui, absolument. Ah, c'est réconfortant. Je lis ça.
Peut-être qu'elle pensait à Mathias Sénard.
Oui, peut-être. Ah oui, j'ai pensé ça. C'est marrant, hein. J'ai pensé exactement la même chose que toi. Mais là, t'es obligé de réfléchir en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce galimatias, quoi? Mais franchement. Et donc, je suis là vraiment comme une poule devant un couteau. C'est pas le premier Fred Vargas que je suis obligé de lire, malheureusement. ça doit être le deuxième ou le troisième. J'avais lu celui sur Robespierre.
Oui.
Très mélanchoniste, hein. Non, c'est vrai, dans l'esprit, c'était très mélanchoniste. Celui-là, là, je ne comprends pas.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des décrochages spatio-temporels.
Ah bah enfin
c'est vrai.
Non, c'est vrai. Arrête d'utiliser des mots
compliqués. Mais il y en a très peu, mais comment tu parles ce soir?
Oui, bizarre hein, ce soir. Bizarre,
ouais. Mais il y en a très peu dans celui-là, c'est pour ça que je trouve qu'il est bien plus réaliste que les autres.
Quand sort la recluse, c'est le nouveau roman de Fred Vargas chez Flammarion. Il faut dire que c'est un printemps très féminin, puisque ça affronte en librairie à la fois Virginie Despentes, on en parlera dans le prochain Masque et la Plume, Fred Vargas et Anna Gavalda, chacune ayant beaucoup, beaucoup de lecteurs. Donc, j'en viens à Fendre l'armure aux dilettantes. C'est 3 ans après La vie en mieux, le nouveau livre qui avait été d'ailleurs discuté au masque. Le nouveau livre de la toujours très attendue Anna Gavalda, l'auteur de Je l'aimais et de La consolante. Elle fait donc ici un recueil de 7 nouvelles, dont une assez longue, hein, presque une 50aine de pages, où les amours sont tristes, les illusions perdues, que je n'ai pas vraiment envie de résumer, sinon en la citant. Elle a fait un très joli petit texte qui accompagne le livre. Il y a beaucoup de gens dans ce nouveau livre qui ne parlent que de solitude. Presque tous parlent dans la nuit, pendant la nuit, et à un moment de leur vie où ils ne différencient plus très bien la nuit du jour, justement. Ils parlent pour essayer d'y voir clair. Ils se dévoilent, ils se confient, ils font de l'armure. Tous n'y parviennent pas, mais de les regarder essayer, déjà, cela m'a ému. Et je trouve que ces personnages-là sont tout à fait émouvants, Jean-Claude.
Ah oui, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il y a 7 nouvelles qui sont vraiment toutes différentes, avec des gens de conditions, d'âge, de parcours différents.
Mais avec une mélancolie quand même commune.
Voilà, c'est ça. Tous sont dans un moment de solitude, c'est des gens désemparés, ils sont en plein désarroi, ils sont saisis à ce moment-là. Et il faut qu'ils en sortent. Et ils vont en sortir par différents moyens, dont beaucoup d'ailleurs par l'écoute, le dialogue, la bienveillance. Et je résous tout de suite l'objection qui va être faite. Oui, on peut faire parfois de bons livres avec de bons sentiments. Je dis tout de suite parce que ça va...
Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'objection.
Oui, mais c'est l'objection. À chaque fois, on y a droit. En tout cas, dans ce livre, il y a de la tendresse, il y a de l'ironie.
C'est comme les avocats, tu plaides avant même d'avoir entendu les...
Gavalda, en général, traîne ce genre de choses, c'est-à-dire, ah oui, c'est bons sentiments et tout ça. Là, moi, je trouve que c'est parfaitement réussi. Je trouve qu'on rentre de plein pied dans la psychologie des personnages. On est tout de suite dans les univers. Le camionneur dans son camion avec son chien.
Il faut dire qu'ils sont de générations totalement variées, de milieux variés.
Oui, oui, voilà, c'est ça. D'âge aussi, par exemple. La fameuse scène au McDo du narrateur avec une jolie fille dont il comprend pas pourquoi il est tellement avec elle et tout ça, c'est la chute est absolument merveilleuse, quoi. Évidemment, je n'en dis rien, mais tout tient dans la chute, et c'est une pure merveille. Le dialogue entre cette femme alcoolique avec ses enfants et cette femme qui est en mal d'enfant et tout, la discussion très forte qu'il y a entre ces deux femmes est absolument magnifique. Donc, il y a beaucoup de ça, c'est toujours des gens un peu qui sont au bout du rouleau, qui sont écrasés par le poids de la vie. Et il y a beaucoup de bienveillance, et je trouve que l'art de la nouvelle permet une grande liberté aux écrivains, et je trouve que Gavalda se déploie beaucoup dans ce genre de la nouvelle. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans la dernière nouvelle, elle a une très 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 jolie phrase, un aphorisme que je trouve très beau. Elle dit, nous, c'est un personnage qui est dans le train, qui se remet d'une cuite et il tombe plus ou moins amoureux des deux filles qu'il aperçoit dans sa brume. Et quand il se réveille, elles sont parties. Et il y en a une qui a laissé cette phrase sur la table du train. Nous vivons une vie, nous en rêvons une autre, mais celle que nous rêvons est la vraie. Et je trouve que c'est la définition même de l'écrivain et du lecteur. Voilà, c'est un très
bravo
beau
parce que tu as résumé. Moi, j'ai du mal.
Proust l'avait dit d'ailleurs.
Arnaud.
Mieux.
Mais là, pour le coup, Gavalda, je comprends. Voilà. Oui. J'entre
de
plein pied.
Il n'y a pas de blocage pour toi. Il n'y a pas de blocage intellectuel.
Non, ça va. Voilà. Je trouve qu'elle avait commencé par un premier recueil de nouvelles qui, d'ailleurs. À mon avis, celui-ci est un peu en miroir de ce premier livre qu'elle avait publié en 1999. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, je crois. Et y a le même côté prélèvement scientifique dans la société française. C'est-à-dire qu'il y a des pauvres, des riches, des vieux, des jeunes, à la fois toutes les classes. Et c'est encore quelqu'un qui voit la société en classe avec un regard sociologique. Évidemment aussi ces trucs d'écrivains. Par exemple, connaître très très bien ou décrire très très bien un métier. La première nouvelle sur la fille qui est vendeuse dans un magasin d'animaux, justement, d'animaux qui vendent des animaux et en même temps toutes les fournitures pour les animaux. Ils sont des magasins qui se développent. On voit qu'elle a travaillé, quoi. Elle a interviewé sans doute une vendeuse. Et je dois dire que il y a un côté presque Pushkin de la société française contemporaine, quoi.
Pushkin, tiens.
Je trouve un peu gratuit, une espèce de capacité à à vous serrer le kiki. J'ai quand même étouffé 200 ou 300 sanglots, je dois dire. Alors, je suis un peu fatigué parce que je suis en campagne. Alors, ça explique cela.
Avant, tu es en campagne.
Oui, oui. Mais cela dit, vraiment, il y a deux ou trois moments, et surtout, je trouve qu'elle a quelque chose que très peu d'écrivains possèdent. Elle parle très bien des enfants. Mmh. Elle parle très bien des enfants contemporains, pas les enfants en soi, pas le concept d'enfant, mais de l'enfant d'aujourd'hui, quoi.
Y compris dans leur langage.
Y compris dans leur langage, y compris dans leur manière de voir le monde et la vie, d'être avec les adultes. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très réussi, de parfait, qu'elle voit très bien. Moi, j'ai toujours aimé Anna Gavalda, par ailleurs, et celui-ci est parfait.
Olivia, toujours fan, ça je sais.
Ouais, moi, hein, je suis comme Arnaud, j'ai toujours aimé, et là, je pense qu'elle est vraiment à son meilleur, que les sujets sont en général assez crépusculaires et tristes, mais que par la magie du regard qu'elle porte sur ces gens, qui est vraiment un regard empathique et tendre, ce qui pourrait être sinistre devient assez merveilleux, je trouve. Et puis,
oui, sans cacher parfois la cruauté, la violence des
ah bah bien sûr.
Et des scènes et des
bien sûr, c'est ça qui est très beau. Et puis, ce que j'aime chez elle, c'est que c'est vraiment une dentelière. Elle a le sens du détail. Pour la femme alcoolique, par exemple, elle raconte comment cette mère de deux enfants, qui est une jeune veuve, quand elle va au supermarché, il faut qu'elle trouve qu'elle achète quelque chose d'assez grand pour cacher la bouteille de whisky dans le panier des courses.
Mais ça t'a rappelé
alors
des
elle
choses,
achète hein, oui. des oui bah moi j'achète toujours des boîtes de céréales pour cacher la bouteille de whisky. Mais ça, je trouve que ça sert le kiki comme le tu dis.
Oui, et le sujet de l'alcoolisme chez les femmes est un sujet très peu abordé. Sujet.
La femme qui dit j'ai un problème avec l'alcool, et puis la phrase d'après, elle dit non, en fait, je suis alcoolique. Ça aussi, je trouve que ça vous serre le cœur. Et il y en a une qui est démente, qui est ce père, c'est la pire journée de travail
meilleure.
De sa vie.
Ouais,
et il est appelé par sa femme qui lui dit là, je peux pas y aller, il faut que tu ailles à l'école, on vient de m'appeler.
Parce qu'il est architecte, il a un problème sur l'immeuble qu'il est en train de construire.
C'est un expert.
Oui, il est en train de s'effondrer. Les fondations sont mauvaises. Ils sont en train d'observer la lézarde dans le mur. Et c'est très beau parce qu'il y a tout, évidemment...
Tout est en train de s'effondrer.
Voilà. C'est une nouvelle sur la fondation.
Et exactement. Et il arrive à l'école. Et son fils, qui est en plus un petit garçon parfait, tu as une manière de parler des enfants. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ces enfants qui aiment les Pokémon. Enfin, elle raconte les enfants d'aujourd'hui. Et qui a fait donc cette chose abominable, que je ne vais pas vous dire.
Ah non.
Mais ce qui est beau après... c'est que le père, il est effondré, vraiment au sens propre.
C'est vraiment abominable.
Et par le hasard de l'histoire, il doit porter dans ses bras un petit enfant handicapé. Et tout d'un coup, il prend ce petit garçon, et là, il est pris d'un vertige, comme s'il allait s'effondrer. Et elle explique en deux lignes pourquoi. D'abord parce qu'il est saisi par la légèreté de l'enfant, et ensuite parce que c'est un père de trois garçons, et il a l'habitude, quand on prend un petit enfant, que l'enfant s'accroche à vous, à votre corps, et là, il sent les jambes mortes du petit garçon.
Et là, elle fait un paragraphe sur le fait de prendre un enfant dans ses bras.
Qu'est-ce que c'est que prendre un enfant dans ses bras?
Et franchement,
t'es d'accord que c'est pas
étouffer un sanglot, faut avoir un cœur de pierre, quoi. C'est vraiment magnifique.
Est-ce que ça t'a serré le kiki, Jean-Louis?
D'une certaine façon, oui. J'ai un problème, moi, avec Gavalda.
Personnel?
Oui, quasiment, oui. Enfin, en tant que lecteur, comme ça.
C'est quoi?
Dans cette relation personnelle qu'on peut avoir avec un texte ou un auteur ou des textes. Ben, mon problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à la trouver antipathique. Et vous savez, alors, je vais vous donner un truc qu'on a, nous, les critiques littéraires, qui fonctionnent bien sur les auteurs à succès, et Gavalda est un écrivain à grand succès, c'est qu'on aime bien qu'ils soient antipathiques, ça nous aide à les trouver mauvais.
Oui.
Mais là, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais que, par exemple, j'ai consulté le Jour des Nolos pour me... Jour des Nolos, c'est le Lagarde et Michard d'aujourd'hui, en quelque sorte. Hein. Et alors, ils sont très méchants. Ils évoquent le monde de Oui-Oui, ce pantin à propos de l'univers de Gavalda. C'est très méchant.
Tu vois ce que je disais?
Oui,
tu vois ce que
je disais. Voilà. Non, mais je fais référence. Je ne le reprends pas à mon compte.
Mais là, pour l'instant, tu ne parles pas du livre, vraiment.
Non, mais j'y viens. J'y viens. Ce qui me frappe chez Gavalda, là, c'était mon préambule, si tu veux. Là, ce qui me frappe vraiment, c'est son extraordinaire pudeur. C'est pour ça que Arnaud y chiale, et que moi aussi, j'ai eu mon petit sanglot. C'est-à-dire qu'elle arrive à étouffer sa propre pudeur à elle, à s'étouffer elle-même pour passer le sanglot à son lecteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est très méchant, c'est pas bien, ça. Et c'est
mais
ça
quoi, tu le reproches de t'émouvoir, donc?
de m'émouvoir à bon compte. C'est-à-dire,
Oui.
Elle a tellement de pudeur. Tiens, elle me fait penser un peu, elle aussi. Enfin, cet écrivain devrait un jour, je pense, fendre l'armure. C'est peut-être pour elle qu'elle a écrit
mais
ça.
Mais enfin,
il me semble qu'il lui est nécessaire.
Qui parle peu d'elle. Ça fait du bien,
justement,
hein.
Parce
ça fait du
pas
bien aussi.
Mais je pense qu'elle devrait défendre. Elle me fait penser à cette jeune fille qui va se confesser. Tu sais.
Et il n'y a plus de jeunes filles qui vont se confesser. C'est fini, ça. C'est fini.
Si. Ben, elle me fait penser à celle-là. Qui va se confesser quand même et à qui le prêtre dit, mon enfant, dis-moi ce que tu as fait. Et elle répond, je n'ai rien fait, mon père. Eh bien, va donc le faire et tu viendras me raconter. Et elle me fait penser un peu à ça. On a l'impression qu'elle va t'avouer un truc énorme, mais qui ne vient pas.
Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça?
C'est mon imagination de lecteur, on est toujours au bord. C'est peut-être ça qui nous bouleverse. Hein.
En tout cas, on vous conseille Fendre l'armure. C'est le nouveau livre d'Anna Gavalda. Le dernier m'avait un peu déstabilisé, je dois l'avouer.
Non, il y avait Billy, et la vie en mieux.
Oui. C'était pas son genre.
Mais parce que il y avait un vrai
Billy. C'était il y a longtemps,
Billy,
le dernier.
Ouais.
Moi, j'aimerais dire que par rapport à ce que tu dis sur.
Oui, non, mais je veux qu'on parle à d'autres livres.
Non, mais sur l'histoire des classes. Moi,
on va passer à d'autres livres.
Oui, mais moi, ce que je vois, c'est l'homme nu. C'est l'homme nu de Simenon. Tu vois, c'est pas l'histoire des classes. L'homme nu de Simenon, tu sais. Et c'est ça qu'elle met en valeur. Et moins que les classes et moins ce que tu dis côté Pouchkine.
La première nouvelle, c'est vraiment une nouvelle sur une différence de
donc
place.
On vous conseille aux dilettantes, Fendre l'armure, le nouveau livre d'Anna Gavalda. Toujours aux dilettantes, Tout un été sans Facebook, le nouveau roman de Romain Puertolas, l'auteur de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire à Ikea, qui avait été ardemment, je me souviens, défendu à cette tribune par Michel Crépu, également de la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel. Bref, Puertolas, cette fois, je rappelle qu'il a été officier de police. Important. Elle revisite de manière burlesque le polar américain, son héroïne, Agatha Crispies, lieutenant de police jeune, noire et corpulente. Oui, bien très corpulente, et mutée contre son gré par mesure disciplinaire à New York. New York, Colorado, hein. Petit village raciste de 150 âmes et surtout de 198 ronds-points du fin fond de l'Amérique, un endroit où les écureuils sont radioactifs et où même les portables ne passent pas. Non, je te raconte un peu, Jean-Louis, que tu saches un peu de quoi il s'agit.
Attends, tu vas pas me coller là-dessus.
Pour tuer l'ennui, Agatha Crispies anime un club de lecture dans son commissariat, des livres dont elle aura besoin, surtout les polars, pour résoudre une série d'assassinats. La première victime est retrouvée morte dans sa baignoire, percée de 150 trous d'aiguilles à tricoter, et la deuxième de fléchettes. Je vois que ce que je te raconte t'amuse. L'épilogue, évidemment, je vous le raconterai pas. Citant, parce qu'en plus, évidemment, quand on a compris, ça devient... Tout prend sens. Et la dernière phrase de Puertolas, dernière page, c'est pour ceux qui aiment savoir qui est l'assassin avant tout le monde, l'assassin est James Joyce.
Oui. Ah ben je l'aurais pas dit moi. Alors ça, je l'avais.
Mais non, parce que c'est pas ça. Tu l'as pas lu. Pour l'éditeur Dominique Gauthier, ce livre c'est Twin Peaks, rebalisé par les frères Cohen. Donc oui Jean-Louis, maintenant je t'ai raconté le livre. Qu'est-ce que tu vas en penser
là-dessus? Non, il a été policier, il n'a pas été que policier l'auteur, il a été aussi...
Ah non, il a été plein de choses, mais il a été surtout...
Il a été découpeur de femmes un cirque autrichien.
Oui, mais...
Non, c'est pour dire, il y a un côté illusionniste aussi.
Non, mais il était vraiment officier de police.
Ah oui, non, mais bien sûr, mais il a été vraiment découpeur de femmes dans un cirque autrichien.
Si.
Bon, qu'est-ce que j'ai noté là-dessus?
Bon, tu veux que j'avienne vers toi après?
Non, oui, je pense que ce roman préfigure la République macronienne. Mais complètement. Alors là, j'ai trouvé que cette idée...
En quoi?
Cette idée de club de lecture dans tous les commissariats, c'est formidable. C'est tout...
Pourvu qu'il n'y ait pas une murène dans un tiroir.
Oui, c'est ça. Non, c'est... On se marre tout le temps, c'est vraiment très loufoque. J'ai appris que ça s'appelait d'ailleurs, ces polars qui sont faits pour se poêler, ça s'appelle des poilards. C'est un, je sais pas, c'est un poilard de première. Non, c'est vraiment très drôle. Alors, c'est d'un burlesque absolu, donc ça sert à rien d'essayer de résumer une intrigue ou de caractériser des personnages.
Pourtant,
je suis désolé.
Il y a une intrigue.
C'est les Monty Python. Oui, il y a une intrigue. Enfin, il y a simplement, il y a un fil pour hameçonner le lecteur, comme ça, pour nommer. En fait, on se marre pas du tout pour l'histoire non plus. Là, c'est pour autre chose. C'est une invention. Un côté Boris Vian aussi, j'ai trouvé dans l'imaginaire de cet écrivain.
Peut-être pas Boris Vian, mais moi, j'avais un peu des a priori. Comme toi, il vendait trop de livres, il était trop sympathique, le gars.
Et
je dois dire que j'ai trouvé ça très marrant.
Ah oui. Oui, très marrant.
Parce que l'intrigue...
Le fakir, t'avais aimé le fakir, non ?
J'ai pas été jusqu'au bout.
Non, pas tellement.
Non, j'étais restée un peu dans le placard.
Le fait de rester enfermé dans une armoire que tu viens de monter, c'est tellement la vie, quoi.
C'était pas ça, hein, l'histoire.
Non, mais c'est mieux.
Il était resté enfermé dans une armoire.
Oui. Non, là, je trouve que c'est très rigolo, que l'héroïne, elle est vraiment désopilante. Et en plus, ce qui marche bien, c'est que c'est nourri de lecture.
Elle est désopilante, oui.
Bah, oui. Oui, elle est assez marrante, quand même. Mmh. Non, il ne faut pas dire la fin. Ce qui est rigolo, c'est que le livre est nourri de lecture de polar. Hein. Et on voit que, on voit que l'auteur a été policier. Alors moi, il y a des détails tout le temps qui m'ont enchantée, notamment sur les meurtres, par exemple. Vous êtes un homme, vous êtes des hommes. On vous assassine. Oui. Eh bien, vous savez que dans 90% des cas, c'est votre femme qui vous a tué. Non, mais c'est quand même dingue comme chiffre. C'est un chiffre vrai. Après, j'ai vérifié.
Ça me paraît crédible.
Alors, il n'y a pas le chiffre.
Ah, c'est vrai.
Mais bien sûr
que le chiffre qu'il donne est vrai.
Oui. Alors après,
moi, je crois que c'était une boutade.
Mais non, parce qu'en fait, il explique.
C'est un vrai flic.
C'est très intéressant, Fred Vargas.
Moi, je ne vais pas rentrer chez moi ce soir.
Fred Vargas, elle dit la même chose. Elle dit que les écrivains qui écrivent des polars, c'est pas très intéressant de s'intéresser aux faits divers parce que c'est toujours des affaires familiales. Bah, et donc là, il explique que c'est effectivement toujours quelqu'un de l'entourage qui a tué. Alors malheureusement, il n'y a pas le chiffre pour savoir combien de maris tuent leur femme. J'aurais été intéressée de le savoir pour mon mari. Mais elle invente en revanche un autre truc, c'est qu'elle invente en meurtre, je ne sais pas si vous a marqué, une femme qui tue son mari avec un couteau à beurre.
Oui.
C'est
un meurtre assez classique dans le pays d'Auge.
Oui, avec un couteau à beurre.
Hein, oui, absolument.
On en voit
après,
assez souvent.
Elle invente un autre truc qui est dément. Elle invente le suicide parfait. Ça ne vous a pas frappé, ça aussi ?
Oui.
Un gars qui est dans sa baignoire.
Attends, tu es en train de dire, là, tu viens de faire une grosse connerie. Hein. Elle invente.
Elle invente l'inspectrice de police.
Oui.
Si, c'est elle qui raconte.
D'accord.
Si.
D'accord.
Elle invente.
Puis de toute façon, c'est une invention
de l'auteur.
Suicide.
C'est une invention de l'auteur, merci. Mais c'est surtout Madame Crispy.
Il faut quand même lui dire que c'est un personnage.
Qui invente un suicide parfait. C'est un mec qui est dans sa baignoire, dans de l'eau chaude, et il se transperce l'estomac avec un pic à glace, qui va donc fondre. Il n'y a pas d'arme. Et il a fermé la porte à clé de l'intérieur.
Voilà.
Non, je vous jure, il y a dans ce livre des trucs vraiment redoutables et puis des petits trucs marrants tout le temps.
Bon,
est-ce qu'on trouve les noms de famille des Polonais ? Il suffit de faire marcher un chat sur un clavier d'ordinateur, il y a toutes les lettres qui sortent au hasard. Non, vraiment, c'est rigolo. C'est comme regarder un film avec une pizza.
Oui. Ah, moi, j'adore... D'abord, moi, ce livre m'a fait marrer tout le temps, mais j'adore la formule de Jean-Louis. C'est un poilard de première. On a l'impression qu'André Pousse a lu le livre et dit « Ah ouais, c'est
faut
un poilard de première. »
Oui, bon, on va avoir du
c'est
mal.
C'est un poilard de première. Et non, ce qui est formidable, c'est que l'intrigue, évidemment, c'est n'importe quoi, mais ce qui est formidable, c'est
non,
que l'intrigue lui sert à faire entrer des diversions tout le temps, des commentaires, des trucs complètement loufoques.
Ce qui était
loufoques.
Le cas du fakir, déjà. Hein,
oui,
c'était pareil. Hein.
Qui loufoque. Alors moi, il y a un truc que j'adore dans ce livre, c'est son acharnement contre Joyce. Je trouve ça, mais absolument, pas contre Joyce en général.
On sent qu'il y a un problème là entre eux. Hein.
Joyce. Mais l'acharnement qu'il a, dont il fait l'étalon du snobisme littéraire, j'adore ça parce que je connais des gens qui sont comme ça, qui évidemment ne l'ont pas lu, on pourrait les prendre. Et c'est devenu en effet un étalon du snobisme littéraire. Et la façon dont il pourfend ça, la façon dont il revient sans arrêt, le truc, et c'est aussi pour ça que l'assassin s'appelle évidemment Joyce à la fin, moi j'ai adoré ça, mais tout m'a plu, les diversions, les trucs. Alors par contre, il y a une petite curiosité, pourquoi chez lui, comme chez Fred Vargas, le personnage de l'inspectrice est obèse, presque difforme, là j'ai pas très bien compris pourquoi ces deux-là...
Ah mais Crispy est plus grosse, que Adamsberg.
Bien sûr, mais non, mais la personnage...
Adamsberg n'est pas grosse, s'il vous plaît.
La personnage d'enquêtrice chez Fred Vargas, il y en a une, les amis.
Ah,
elle est aussi
ah, oui.
obèse, elle est aussi
oui,
difforme.
Tu comparais
aussi...
les... Oui, d'accord.
Et je ne comprends pas pourquoi dans ces deux livres... Ils font ça.
Bah, liberté Arnaud. Pour les femmes grosses, oui, bah, merci, Jean-Claude.
Oui, écoutez, dès la première phrase du livre, hein, il est question d'une route sinueuse qui serpente. Vous voyez, là, moi, je dis, écoutez, les gars, je veux dire, après, on peut se foutre de la gueule de Joyce, tout ça, le snobisme littéraire. C'est un cas intéressant, ce type. Hein. Pour moi, ça fait partie... Il y a eu la démocratisation de la lecture à partir des années 60, avec l'invention du livre de poche. Et là, on est dans la démocratisation de l'écriture, et c'est formidable que tout le monde écrive, et très bien. On voit bien que Bertualas, il a
moi,
un bon accès.
Mais non, mais il le fait exprès, enfin. Mais il le fait exprès, dès la première phrase, enfin.
C'est une façon de dire qu'on ne peut pas sinuer sans serpenter.
Mais tu vas pas le prendre en flagrant délit.
Non, mais
c'est du deuxième degré.
C'est un mauvais procès.
De compost, moi, j'ai adoré Twin Peaks de David Lynch, mais genre, c'est une espèce de compost subculturel autour de Twin Peaks, tout ça.
Non, mais ça n'a rien à voir avec Twin Peaks.
C'est une espèce d'apologie, comment dire, poujadiste populaire de la littérature. Mais si, c'est que ça. C'est au bout d'un moment, moi, je vais vous dire, j'ai pas trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça même un peu répugnant. Quoi.
Oh,
ah ouais.
Oh bah,
bah ouais. Ah,
bah non, tu serais pas bah, en si, campagne, quoi. Là
Non, mais ça n'a rien à voir avec ma campagne, mais si. Franchement, mais là, si. Moi, ça me fait pas. Ça me fait, le poilard, ça me fait pas poiler, quoi.
Et ben, dans ce poilard, je suis désolé, c'est un véritable éloge de la littérature en permanence et de toutes les littératures.
Mais non, mais San Antonio, c'est quelque chose, quoi. Mais là, c'est vraiment pas ça. Et surtout, il y a un fond vraiment pas très ragoûtant.
Il y a que toi pour l'avoir vu. Hein.
Tout un été sans Facebook, c'est Romain Puertelas et c'est au dilettante très différent dans ce jardin qu'on aimait chez Grasset. Le nouveau livre de Pascal Quignard, l'auteur de Tous les matins du monde. Alors là, ce n'est ni un roman, ni un essai. Ça s'apparente plutôt à des dialogues de théâtre. Et c'est l'histoire vraie, que personnellement je ne connaissais pas, peut-être que Jean-Louis la connaissait, d'un homme qui, bien avant Olivier Messiaen, consacra sa vie à noter dans son jardin les chants des oiseaux. Il était pasteur, il était compositeur, il était ornithologue. C'était le révérend Simon Pease Cheney, 1818-1890, et qui exerçait son ministère dans une bourgade près du port de New York. Sa femme, elle était morte très jeune, à 24 ans, et c'est pour la retrouver qu'il entretenait le jardin de la cure, où en plus, tu as raison, Arnaud, en plus de traduire les cuicuis, eh ben, il notait notamment le bruit que fait la pluie en tombant dans un arrosoir, le cliquetis de la chaîne au fond du puits, et puis il a fini ce révérend par chasser de chez lui, sa fille, qu'il jugeait coupable de la mort de sa mère. Et Quignard a écrit « J'étais ensorcelé par cet étrange presbytère, tout à coup devenu sonore, et je me suis mis à être heureux dans ce jardin, obsédé par l'amour que cet homme portait à sa femme disparue. » On n'est pas loin d'ailleurs du personnage de Sainte-Colombe dans Tous les matins du monde, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était veuf, lui aussi, qui jouait seul de la musique dans une cabane. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens Arnaud.
Pascal Quignard a acquis une liberté absolument incroyable, oui.
Y compris dans l'écriture.
Y compris dans l'écriture, qui fait que n'importe qui rendrait ce livre à son éditeur. L'éditeur lui dirait, écoute, là, déjà, tu ne veux pas travailler encore un peu plus. Parce que il crée une forme hybride, finalement, qui est entre le théâtre, la poésie et le roman, qui est très, très bizarre comme forme. Mais ça dégage une force. Il n'y a pas que cette histoire de musique des oiseaux qui est en soi magnifique. Il y a effectivement le fait qu'il ait dû sacrifier sa femme pour voir naître sa fille. Donc évidemment, il y a ce rapport. Et il y a aussi le fait, qui est très intéressant et qui est très important de livre, qu'il n'arrive pas à publier son livre. Et c'est finalement d'ailleurs sa fille qui va le publier après sa mort. Et tout ça, Pascal Quignard...
Tout ça est vrai, hein,
encore une fois. Est vrai. Et Pascal Quignard mène ça en quoi 120 pages serré d'une manière absolument prodigieuse en croisant les trois thèmes. C'est-à-dire l'impossibilité de publier le livre, la mort de sa femme, sa fille et le chant des oiseaux. Tout ça s'entremêle de manière effectivement, alors pour le coup, très musicale, mais en même temps avec quelque chose d'un peu fou. C'est ça que j'aime bien, moi, chez Quignard, c'est que c'est un peu dingue.
Pour répondre un peu à ce que tu dis, ça, c'est destiné aussi, on le sent bien, à être porté à la scène.
Ah oui.
Et il joue de plus en plus lui-même, ses textes.
Oui, oui, oui. Il participe de plus en plus.
Ce qu'il appelle des performances.
Oui, il y a des didascalies.
Voilà, et là, c'est destiné, et à mon avis, avec lui, dans le rôle, Quignard, dans le rôle de ses révérends. Olivia ?
Oui, parce que moi, j'ai vu ça vraiment presque comme une pièce de théâtre. Je ne sais pas si j'ai forcément tout compris à la forme, mais j'ai été bouleversée par le propos. Parce que pour moi, c'est aussi l'histoire d'un homme qui décide de ne pas faire son deuil. Et j'ai trouvé que c'était assez subversif par rapport à l'époque où aujourd'hui on vous dit qu'il faut faire son deuil et passer à autre chose. C'est un livre presque dans la mouvance de l'œuvre de Philippe Forest, que j'adore. Et cet homme qui ne veut pas faire son deuil est... Après, je trouve que ça ressemble aussi à une variation autour du mythe de Podane, parce que finalement, cet homme ne supporte plus la vue de sa fille à partir du moment où elle a dépassé l'âge de sa femme, et au lieu de l'épouser comme dans Podane, il la renvoie, sauf qu'à la fin, elle prend l'alliance de sa mère et elle devient aussi sa mère. Et il y a une scène absolument dingue, tu as raison, mais effrayante, où la femme revient comme une sorte de fantôme, et là, on s'aperçoit que toute l'idée qu'on a sur les morts, les rapports entre les morts et les vivants, eh bien que les morts oublient les vivants. Il y a une phrase absolument terrible.
Oui.
En fait, c'est un livre terrible.
Mais très beau.
Très beau. Subversif.
Il faut des détails techniques. Je vous rappelle quand même que contrairement à un Messiaen, quand ce pasteur a noté ces chants d'oiseaux, évidemment, il n'y avait pas de magnétophone. Hein. Et donc, il a réussi à trouver la transcription miraculeuse de ces bruits. Jean-Louis.
C'est tout à fait ce deuil qui est en avant tout le temps. C'est cette obsession, c'est cette tragédie d'un amour qui continue, mais qui n'est plus, avec ce fond de ces chants d'oiseaux en fond qui constituent son industrie principale. Il a oublié complètement ses ouailles, il ne s'occupe plus que d'écouter non plus le malheur de l'humanité, mais simplement le chant des oiseaux. Et le chant des oiseaux, ça cristallise évidemment le paradis perdu, celui qu'il a perdu. Et ça rejoint complètement ce que des grands musiciens ont noté sur le chant des oiseaux. Ravel notait aussi des chants d'oiseaux pendant la guerre de 14, quand il conduisait un engin blindé. Il avait été frappé du fait que, pendant des explosions, pendant le chaos le plus total, les oiseaux continuaient de chanter. Delamain, le fameux ornithologue qui a inspiré aussi Messiaen, l'avait remarqué aussi. Et donc ça, ce personnage, Chenet, évidemment, ignore, il est avant la guerre de 14, mais c'est tout ça que le roman, enfin, c'est pas un roman, c'est que ce dialogue traduit, illustre, et c'est magnifique.
Jean-Claude.
Il n'y a pas que le chant des oiseaux, il y a aussi le langage des parfums. Parce que ce livre est rempli de parfums. Alors évidemment, il ne le traduit pas de façon musicale, mais il y a aussi ça. C'est le livre de l'amour fou. C'est-à-dire qui va au-delà de la mort, qui est à la fois exclusif et excluant.
C'est en cela que ça, c'est très ressemblant avec Tous les matins du monde aussi.
Oui,
hein,
oui,
qui était
bien
la
sûr.
Passion de la qu'avait cet homme pour son.
Mais c'est un amour
pour sa femme disparue
qui est exclusif et qui exclut. La preuve, c'est que la fille est rejetée. C'est un livre de rituel silencieux aussi.
D'ailleurs, le livre du pasteur, Dvorak l'a lu quelques années plus tard quand il est paru, et ça lui a inspiré un quatuor très fameux.
C'est un livre sur la réconciliation des âmes. C'est un livre sur le dialogue avec les morts. Et c'est aussi l'idée que écouter le chant des oiseaux, c'est déjà avoir un avant-goût du paradis. Et tout ce livre, et tu avais raison, est tissé de plein de formes différentes et constitue quelque chose qui est un objet tout à fait miraculeux, somptueux, merveilleux.
Et très singulier,
délicat,
effectivement.
Délicat,
très singulier. On vous conseille vraiment dans ce jardin qu'on aimait chez Grasset de Quignard. Allez, on termine, on n'a pas beaucoup de temps, c'est dommage, pour La mémoire n'en fait qu'à sa tête chez Albin Michel, un livre de souvenirs. Signé Bernard Pivot, des souvenirs qui lui sont chaque fois inspirés par de petites phrases glanées chez Proust, Nabokov, Michaud, Vialade, Blondin ou Tournier. Il prétend ainsi que sans une phrase de Dormesson, il n'aurait pas pensé évoquer la seule gifle que son père lui a donnée. Il avait 12 ans, il venait de briser une fenêtre avec un ballon de foot. Sans Echnoz, il n'aurait pas osé écrire que du temps où il était pensionnaire dans un collège religieux, et il trouvait très bandante, là je le cite, Martine Carole, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, et même qu'elle lui chauffait le croupion. Et puis dans ce livre, on trouve évidemment également, il y a une rencontre formidable avec qu'il a faite quand il était journaliste au Figaro avec Karen Blixen, à qui il a offert un artichaut chez oui. Drouan. Et c'était un an, elle était déjà rongée par la syphilis, un an avant sa mort. Et puis on croise Ezra Pound chez le général allié, on croise Mauriac, Sagan, Tournier, Duras, Druon. J'en oublie des bonnes raisons de lire cette mémoire qui n'en fait qu'à sa tête, Jean-Claude.
Oui, c'est un livre guilleré, c'est un livre un peu canaille, comme tu l'as remarqué. C'est un livre qui fonctionne par saut et gambade de la mémoire, c'est des ricochets littéraires.
Mais pas capillotracté.
Pas du tout. Alors vraiment pas. Alors là, pour le coup, pas du tout. C'est une sorte de vide-grenier aussi. Il y a plein d'anecdotes.
Oui, ce qu'on appelle chez nous des foires à tout.
Des foires à tout. C'est ça, voilà. C'est ça. Et alors, il y a évidemment. Puisqu'il a gardé ce tour de courriériste qu'il avait quand il a commencé sa carrière, c'est-à-dire trouver des petits détails, raconter des petites histoires. Alors évidemment, l'évocation de Mauriac est formidable, c'est-à-dire
qui est pas tant que
Mauriac. Du tout.
Le vieux Mauriac à l'époque au Figaro,
oui.
Il en prend pour son
grade. Mauriac traversait le Figaro littéraire, qui ne saluait personne, qui était comme ça. Il y a un portrait de Jean-François Revel, turfiste. Fou de course de chevaux.
Je savais pas que Revel
qui misait, qui tout ça. Enfin, qui est absolument extraordinaire. Et puis alors, je garde, puisque tu nous demandes d'aller vite, je garde sur l'art du raccourci, il cite un trait fulgurant de Blondin, résumant l'Odyssée d'Homère, Ulysse, ta femme t'attend.
Oui, c'est Blondin, ça, oui.
C'est Blondin. Jean-Louis.
Oui, c'est tout à fait. Alors, c'est ce qu'on aurait appelé autrefois un recueil de miscellanées. Hein? C'est un peu ça, c'est un mélange.
Non, parce que c'est vraiment. C'est quand même des souvenirs.
Oui, c'est des souvenirs.
Miscellanées, c'est dans tous les sens.
En fait, quand tu regardes vraiment la structure du livre, quelques motifs que lui propose le souci du moment, à son âge, évidemment, ça va tout de suite déclencher un souvenir. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là.
C'est plutôt profil perdu.
Il y a des choses un peu philosophiques sur l'amour, les nunucheries de l'amour chez les grands intellos comme Simone de Beauvoir, qui ne doivent rien à l'égard de Sartre, qui l'entourait de phrases absolument bébêtes, enfin bon.
À propos d'amour, elle se demande si les académiciens Goncourt ont un jour fait la chose dans le fameux salon. Ils se demandent.
Oui.
Alors, il fait une opposition entre le côté, bon vivant des académiciens Goncourt avec l'austérité des académiciens. C'est vrai, c'est assez marrant.
Oui, il irait presque jusqu'à dire que s'il a fait le choix de l'Académie Goncourt, c'est que chez les Goncourt, il y a à boire et à manger. Il le dit pas comme ça, je raccourcis un peu, mais bon...
Il le dit comme ça.
Il le dit comme ça, quasiment, hein, on peut dire. Alors, il y a une chose qui est quand même remarquable dans ce livre très sympathique, et puis qu'on dévore vraiment, c'est que, normalement, il y a un truc qui est rédhibitoire, parce que quand vous prenez le rayon... correspondant dans votre bibliothèque, où vous allez trouver Jules Renard, Tristan Bernard, Paul Léoto, Alphonse Allais, des gens comme ça qui racontent des souvenirs littéraires, c'est que Pivot, il y a une qualité qu'il n'a pas, mais vraiment qui lui manquerait, c'est la méchanceté. Il y a aucune méchanceté. Il n'y a jamais de méchanceté. Quand il règle un compte, c'est à fleur et tellement moucheté que
bien, tant mieux,
l'adversaire ne s'en rend
pour
pas
une
compte.
Olivia.
Olivia.
C'est très sympathique. Moi, j'adore la manière dont il aborde l'écriture parce qu'il la fait toujours en lecteur. Parce qu'il aurait pu écrire un livre de souvenirs. Et là, vraiment, c'est un livre écrit en hommage à tous les auteurs qu'il aime. Il y a un chapitre très intéressant sur la beauté des écrivains. Où il cite Gombrowicz qui, quand il voit pour la première fois le Clésio, le trouve tellement beau qu'il pense, il se demande si ça va pas être un venin qui va l'empêcher de devenir un grand écrivain. Et après, Pivot d'ailleurs regrette de ne pas avoir posé la question à le Clésio sur son rapport à son corps et à sa beauté. Bon, après, il est plus canaille quand il se souvient des belles filles qu'il découvrait. Il dit qu'il a jamais invité à apostrophe une fille parce qu'elle était belle. Bon. Peut-être qu'il l'a fait, et que quand il arrivait au maquillage, il était tout d'un coup tout content de découvrir Muriel Cerf. Et puis alors après, c'est des petites madeleines pour nous,
Muriel,
parce que qui connaît encore Muriel Cerf,
qui avait son bandeau,
qui était ravissante,
qui était canonissime, et qui était arrivé avec un bandeau de pirate.
Je ne comprenais rien à ces livres.
Moi non plus.
Non, mais quand elle passait à apostrophe, c'était suffisant.
Allez, un mot d'Arnaud.
Non, en fait,
rien pour ça.
J'ai compris quelque chose en lisant ce livre que je n'avais pas compris jusqu'à présent à propos de Bernard Pivot, c'est que nous... Normalement, on se définit comme critique littéraire. Mais lui, il a tout de suite conçu autrement les choses. Il est journaliste littéraire. Oui. C'est pas du tout le... Il fonctionne en fonction de l'actualité. Ce qui l'intéresse, c'est l'actualité littéraire. Il y a un très beau passage sur Proust où il dit pourquoi il n'arrive pas à lire Proust, qui est justement un rapport à l'actualité littéraire. Et je trouve que ça, c'est un peu comme un journaliste sportif, finalement. On lui demande pas de pratiquer le sport. Mais on lui demande d'avoir une connaissance, l'histoire. l'histoire du sport et même d'avoir une vision séparée de l'expérience. Eh bien, je trouve que Pivot, il a ça. Tu disais, c'est, il parle en lecteur, mais il parle surtout en journaliste de la littérature.
Oui. La mémoire d'en fait casse la tête, c'est Bernard Pivot et c'est chez Albin Michel. Garde le micro, Arnaud, pour un conseil.
C'est toujours émouvant quand un copain fait un beau livre et franchement, là, Vision de Jackie Kennedy au jardin Galliera de Michel Crépu chez Gallimard. Rien que le titre déjà. Et le roman est d'une beauté absolue.
Très proustien d'ailleurs dans son...
Très proustien, ça raconte finalement ce passage des années 60 aux années 70 avec un adolescent qui ressemble beaucoup à Michel Crépu qui va rencontrer Jackie Kennedy grâce à une tante qui a grandi avec elle. C'est totalement magnifique, totalement onirique, parfois très nervalien. Il y a un voyage en Touraine qui est vraiment mais pur nerval. Et en même temps, ça change de tonalité. Moi, je pensais à cette chanson de Dylan qui s'appelle Vision of Johanna et je me disais que Michel Crépu a écrit son Vision of Johanna à lui. Voilà.
Et des pages sur la disparition d'un ami de, et sur, qui était renversé par une voiture. Très belle.
Et sur le journalisme aussi. Ouais.
Le conseil d'Olivia.
Eh bien, moi, je vous conseille de lire tous les livres d'Emmanuel Bernheim qui est mort cette semaine. Toute son œuvre est publiée par Folio. Et c'était vraiment une femme qui était dénuée de toute méchanceté et qui était très intense, qui a écrit une œuvre très sensible.
Des livres très courts, toujours.
Très, très libres. D'ailleurs, elle avait écrit ça dans ton dictionnaire.
Ouais,
elle avait, pour se définir, elle disait, elle écrit court. Et évidemment, relire le livre qu'elle avait écrit, dans lequel elle racontait comment elle avait aidé son père à mourir. Tout s'est bien passé, ça prend une tonalité nouvelle. Elle était très libre. Moi, c'était vraiment une femme modèle pour moi.
Mon conseil, c'est une réédition du livre d'un éditeur. Ça s'appelle « Endetté comme une mule ».
Ah oui,
une réédition chez Tristram. Des souvenirs d'Éric Losfeld, qui est mort en 1979, qui a publié au Terrain Vague et sous son nom des pépites surréalistes, érotiques, fantastiques, anarchistes. Alors, il y a Mandiar, Klosowski, Topor, GB, Arabal, Gainsbourg, un livre de Gainsbourg, Léo Mallet, et puis le fameux Emmanuel, d'Emmanuel Arsan, et La vie de Losfeld, qui était un Belge arrivé à Paris, est aussi une forme de roman. C'est Endetté comme une mule, et c'est chez Tristram, le conseil de Jean-Louis.
Ben, puisqu'on évoquait Quignard, j'ai aussi, paraît en même temps, Performance de ténèbres aux éditions Galilée, alors par Pascal Quignard, et là c'est une évocation autobiographique.
Vraiment. De son travail sur scène.
De son travail sur scène, de son enfance aussi, il y a des choses absolument splendides. Et on retrouve le grand écrivain, c'est-à-dire celui qui naît, tu disais Arnaud, tu parlais de sa liberté va jusqu'à explorer, je dirais, les confins du langage, vraiment. C'est-à-dire ce qui est indicible et même ineffable. Et là, c'est absolument magnifique, c'est le Quignard dans toute sa... La liberté, voilà.
C'est et c'est mot. Aux éditions
c'est
Galilée.
Galilée, Performance
Le conseil
de
pour
ténèbres.
Finir de Jean-Claude.
Un roman sur une femme libre, là aussi, une vraie femme libre, qui s'appelait Maryse Bastier. Plus personne ne se souvient de Maryse Bastier. Il y a une station de tramway à Paris qui s'appelle Maryse Bastier. La RATP ne fait même pas l'effort de dire qui c'était. Et Maryse Bastier a été une très grande aviatrice, 10 records du monde. Elle a battu le record d'endurance que personne n'a plus jamais battu après elle, qui est 38 heures à tenir dans un zinc dans les années 30-40. C'est un très très beau livre qui vaut surtout, outre qu'on découvre l'histoire de Maryse Bastier, c'est le travail littéraire de l'auteur qui s'appelle Agnès Clancier. Et c'est la grâce d'un style qui n'appuie pas pour raconter cette histoire. C'est un style léger pour traduire l'enthousiasme, le désarroi, l'effroi, l'obstination et la gravité de cette femme libre qui fut une grande aviatrice et aussi une grande résistante. C'est chez Arléa et ça s'appelle Arléa. Une trace dans le ciel, Agnès Clancier.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Jean-Claude Raspienjas et Jean-Louis Zine. Pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir au Charles Trenet, à la technique il y avait Bruno Mourlan, Fabien Capel et Lidouine Caron. La réalisation était de Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume ce sera le jeudi 1er juin à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une qui sera consacré au cinéma et l'autre au théâtre. La semaine prochaine, on parlera de cinéma et on parlera de cinéma en direct du Festival de Cannes de 19h30 à 21h pour l'annonce du palmarès de cette nouvelle édition. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.